Dans l'antre de l'Etihad Stadium, le dimanche 31 mars à 17h30, la course au titre en Première Ligue prendra un nouveau virage. L'élève Mikel Arteta essaiera de défier son maître et de prendre le dessus Pep Guardiola. Manchester City, Arsenal, peut-être un nouveau classique de Première Ligue. En tout cas, on va en parler aujourd'hui et je suis avec une super équipe. Je suis déjà avec quelqu'un qui nous fait l'honneur d'être présent, alors qu'on n'est ni Régis Brouard, on n'est ni Robert Malm, mais il fait quand même honneur sur le podcast. C'est Karel, comment ça va ?
Ah mais non, c'est moi qui pour qui l'honneur est d'être avec la grande équipe. Non, je peux pas, je vais spoil en fait si je dis ça, je vais spoil le deuxième invité.
Mais comme dans tous les podcasts Malik 2, à chaque fois déjà, mais à chaque fois dans Malik 2 d'ailleurs, on va en parler maintenant parce que bon, de toute façon c'est pas du tout le sujet et ça va intéresser personne, mais à chaque fois dans les podcasts Malik 2 que tu as enregistré donc avec Régis Brouard et Romer Balm, et je vous invite à les écouter parce qu'ils sont super intéressants, t'as Julien ou Dorian qui spoil l'invité en disant « Oui, je suis avec un invité de prestige. » Et puis non, l'invité est de toute façon dans le titre, donc tu spoil rien du tout.
Ils me font des petites passes-dés. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis là, je fais les intros un peu comme au tennis.
C'est vrai.
J'ai entendu le son avec Raphaël Nadal où t'annonces tout le palmarès avant, etc. Voilà, c'est vrai qu'après, dans le titre, la diffusion sur les réseaux sociaux. Bref, on s'égare, mais ravi d'être avec vous.
Bon, c'est gars, mais en parlant de palmarès, du coup, de notre invité, c'est le sang, on va dire aussi de mon côté. Il est aussi sur Sports Content, vous connaissez très bien sa voix. Il dirige le podcast Artilleur et je suis juste là en co-animateur. C'est Thomas, du coup, comment ça va ?
Écoute, ça va super. Ravi d'être avec, honoré d'être avec la team temps additionnel, des voix que je suis depuis longtemps et qui m'inspirent chaque jour. Donc, je suis très content de vous retrouver pour ce match au sommet.
Ah, c'est beau. Alors, et du coup, je peux finir, Flo. Je suis très honoré d'être avec la team d'artilleurs que j'écoute moi-même. Voilà, il faut aller suivre, écouter le podcast. C'est très très qualitatif, donc n'hésitez pas.
Avant de commencer cet épisode, on va crever un abcès parce que vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'intervenant de Manchester City qui seront avec nous pour parler de ce match-là. C'est un petit peu dommage, il est vrai. On a contacté donc Manchester City Branch, et ils n'ont pas été disponibles. On a eu Diego de Tactique FC qui n'était pas disponible. Et c'est tout aujourd'hui. Ce qu'on a en termes de tweetos de qualité sur Manchester City, c'est très pauvre. Donc on lance aussi un petit peu un appel à l'aide. Si jamais il y a des auditeurs, supporters de City qui nous écoutent et qui savent argumenter sans troller comme d'obscurs comptes de Twitter dont je ne citerai pas le nom, comme Blue Moon, qui sont plus là pour troller que faire des analyses, on vous...
Ah, t'as cité là ?
Oui, c'était la blague.
Okay. Le dérapage.
On vous accueille en tout cas à bras ouverts. C'est vrai qu'on manque un petit peu cette saison d'intervenants sur City, donc si jamais vous êtes motivés, envoyez-nous des MP sur Twitter et on se fera un plaisir d'intervenir avec vous, sachant que City a quand même de gros matchs dans la saison sur la fin de la saison. Donc voilà, c'est le message est passé. On va passer sur le match du coup. Comme je le disais, dimanche 31 mars à 17h30, c'est un match un petit peu particulier puisque on sort de la trêve internationale. Il y a eu quelques petits pépins, quelques petits soucis de part et d'autre, avec aussi le fameux jeu qui a été joué par beaucoup d'équipes du top 5 cette saison, je trouve encore plus, avec des joueurs qui ont eu une blessure mystérieuse juste avant la trêve et puis qui ont du coup derrière déserté l'équipe nationale pour se concentrer sur les clubs. On est aussi dans le dernier sprint final avec 10 matchs qui restent avant la fin de cette première ligue. Et donc Arsenal, qui est premier avec 64 points, reçoit City, qui est donc troisième avec 63 points. Donc un match absolument fou. On va d'abord, donc avant d'habitude on parle un petit peu de la forme des équipes, on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on sort comme cette trêve et je trouvais intéressant d'en reparler. Côté Arsenal, du coup Thomas, il me semble qu'on est quasiment pas trop mal. Il y a quand même trois incertitudes qui ont été aujourd'hui abordées par Arteta en conférence de presse. Elle concerne évidemment donc Bukayo Saka qui s'est blessé, donc qui est venu blessé en sélection anglaise et qui est reparti juste avant le premier match avec la sélection et qui est encore un petit peu incertain. Martinelli qui ne s'est pas encore remis de sa coupure qu'il a eue lors du match il y a deux semaines, mais je ne sais plus contre qui, mais il y a eu une grosse coupure contre West Ham je crois, mais je ne suis pas tout à fait sûr, il s'était blessé.
Et C'est pas Sheffield.
C'était contre Sheffield, voilà, merci. Ouais. C'était contre Sheffield, du coup, qu'il y a une coupure et il y a encore incertain, malheureusement. Sa coupure ne s'est pas encore rétablie, c'est une coupure assez profonde, apparemment. Ouais. Et la troisième incertitude, aujourd'hui, elle porte sur Gabriel Jesus aussi, qui n'est pas encore à 100%. Non, c'est Gabriel Magalhães, pardon.
Ouh là là. Défenseur.
Qui lui aussi donc, est arrivé avec la sélection du Brésil, qui a fait constater une blessure à la sélection. On parle d'une inflammation peut-être du tendon d'Achille, on ne sait pas exactement ce que c'est, et qui sera aussi incertain pour ce match. Pour le reste, on est quasiment au complet avec Arsenal. Zinchenko est revenu, il a joué avec un des barrages avec l'Ukraine et il s'est brillamment qualifié contre l'Islande. Il y a aussi Gabriel Jesus qui est de retour. Le seul forfait, c'est Timber, mais il n'y a pas trop de surprise, il est encore en phase de reprise. Toi, du coup, comment tu sens cette équipe-là sur la phase de reprise, du coup, est-ce que tu es confiant avec, on va dire, malgré ses blessures, est-ce que tu penses que l'équipe va être émoussée? Moi, je sais qu'Arsenal, quand même, est un petit peu toujours émoussé après les trêves internationales parce que les joueurs reviennent un peu tard et ils ont du mal à se remettre dedans. Comment tu te sens, toi?
Bah écoute, je suis forcément partagé parce que c'est vrai qu'on a... si on parle vraiment de la forme liée à la trêve internationale, on a quand même des engagements de joueurs qui sont différents. Quand on voit Odegaard avec la Norvège qui a pas mal joué, qui a joué les deux matchs. Rice également qui a joué les deux matchs deux fois 90 minutes. Alors que par exemple Haaland, on a joué aucun avec la Norvège, ou De Bruyne, on a joué aucun avec la Belgique. Forcément, on se dit qu'il y a quelques matchs en plus. Donc il y aura un petit différentiel de forme, même si par exemple Saka et White, bon White c'est logique, mais ont pas joué avec l'Angleterre. Trossard également a joué avec la Belgique. Donc voilà, il y a ce côté un peu partagé entre la forme de chacun, ces blessures qui font que ils se sont pas entraînés hier, il y a encore une session d'entraînement demain, donc à voir si on en a certains qui reprennent. On a vu aussi quelques rumeurs sur Martinelli comme quoi sa blessure serait plus grave que prévu et que ça pourrait durer un peu plus longtemps. Donc on va voir. On sait aussi que du côté de City, il y a eu plusieurs sorties sur blessure. On n'a pas parlé de Walker ou de Stones par exemple qui ont été, ou Guardiola a indiqué qu'ils étaient tous les deux out pour le match de dimanche. Donc c'est pour ça que je dis partagé, parce que voilà, il y a des manques de chaque côté et il y a des formes qui sont encore à voir. Nous, on a aussi beaucoup de joueurs en reprise. Hein. Tu l'as cité tout à l'heure, Gabriel Jesus, mais on a aussi du Thomas Partey, on a du Tomiyasu, on a du Fabio Vieira qui ont quasiment pas joué, enfin ont joué quelques minutes depuis, mais on ne sait pas encore trop s'ils ont le rythme, s'ils sont en forme pour ce choc.
Exactement, oui, tu en as un petit peu parlé aussi de City, donc on va y aller, je vais me diriger vers Kirel pour en parler. Aujourd'hui, donc côté City, qui a fini quand même les matchs avant la trêve avec des blessures qui étaient quand même assez importantes. Il y a Ederson qui était forfait contre Liverpool, rien que ça, ce qui était assez important, mais qui devrait être fit aujourd'hui contre Arsenal. Il y a Akanji qui était qui a eu un petit coup contre la Suisse, mais qui devrait être disponible si on en croit la conférence de presse de Guardiola. Aujourd'hui, les deux incertitudes, et donc selon les dires de Guardiola, se portent sur Stones et Walker qui seraient forfaits. Je vais quand même mettre un petit disclaimer là-dessus, puisque Guardiola a déjà fait le coup contre Arsenal, où Stones était forfait sur un match, était annoncé forfait sur un match en 2021. Stones avait joué, Stones avait marqué, et City avait gagné 4-1. C'est pas un très bon souvenir côté Gunner, mais en tout cas, ça prouve que du côté de Guardiola, on maîtrise quand même un petit peu l'art du Pokémonteur. Arteta le fait aussi, c'est de très bonne guerre, mais les dires de Guardiola, pour moi, ne sont pas garants aujourd'hui de certitude, puisqu'il bluffe un petit peu là-dessus. Mais toi, Kirel, du coup, si tu te dis que Walker et Stones sont indisponibles, est-ce que tu penses que ça va être un gros handicap pour City?
Tu l'as dit, c'est à prendre pas à la légère, mais avec une certaine nuance tout de même, parce qu'on sait que Guardiola excelle en conférence de presse, que c'est voilà, le genre de petit tour qu'il adore jouer à ses adversaires. Mais si ces absences viennent à se confirmer, forcément il faudra les prendre en compte, parce que c'est des joueurs quand même majeurs pour Manchester City qui seront absents. Aujourd'hui on a vu que Walker, malgré certaines lacunes, notamment sur le plan offensif, c'était quand même, je trouve, de plus en plus compliqué de s'en passer aujourd'hui dans cette équipe de Manchester City. Et Stones, on a vu également ce qu'il était capable d'apporter en charnière, mais aussi dans sa manière à s'imbriquer dans ce milieu de terrain. Donc forcément, ça sera deux absences à prendre en compte. Même si on sait que Manchester City a un effectif à rallonge, a de quoi combler les absences. Aujourd'hui, c'est le genre de match où ce genre de coup dur pour l'une des deux équipes peut faire la différence. On sait que ça se joue à des détails, à ce genre de petites choses, donc à surveiller. Forcément, même si, comme tu l'as dit, rien n'est définitif. On attendra de voir la feuille de match et on prendra pas forcément les dires de Guardiola pour acquis.
Surtout que si tu regardes un petit peu après qui remplacerait ces deux joueurs-là, c'est quand même pas la catastrophe. En latéral droit, tu as Rico Lewis qui serait du coup qui remplacerait Walker, qui est quand même un sacré client et qui fait de très beaux matchs.
C'est quand même pas le même registre, donc
c'est
ça
pas le même registre, c'est
les
vrai.
Modifications aussi.
Après, tu as Ake qui pourrait remplacer Stones et qui a déjà montré qu'il avait quand même quelques facilités pour s'imbriquer dans le milieu de terrain, donc de manière quand même moins fluide qu'avec Stones, puisque Stones le fait extrêmement bien, a quand même eu quelques lacunes et quelques difficultés dans ce registre-là. Et sur le côté gauche, après, tu pourras mettre un Guardiola, donc, et puis tu associes Ake à Diaz, donc c'est quand même pas trop mal. Donc la grosse nouvelle quand même, c'est le retour de Ederson, je trouve, qui va être très importante pour City. On a parlé d'ailleurs, je vais faire une petite passécive, mais Cartier dans l'épisode 2 du rôle de gardien de but aujourd'hui dans un système un petit peu comme Guardiola avec Arsenal, mais ça s'implique, on surlignait et on mettait en valeur un petit peu l'importance d'un gardien de but dans ce système-là. Ortega est un très bon gardien, mais Ederson est un gardien qui permet beaucoup justement de distribuer le jeu, d'avoir un meilleur contrôle sur le jeu et de permettre d'alterner le jeu long et le jeu court pour se défaire d'un pressing d'Arsenal qui est très compliqué et à se défaire. Donc ça va être une sacrée plus-value, surtout qu'il a quand même un petit peu manqué contre Liverpool, où City a été accroché un partout. Toi, Karel, tu as vu le match, est-ce que tu peux brièvement dire un petit peu ce que tu avais pensé de ce Manchester City-là, justement, contre Liverpool ?
Moi, je trouve que globalement, pour reprendre un peu l'axe général du match, c'est quand même, selon moi, une partie que Liverpool doit remporter. On avait dit que on avait fait la preview et on avait dit qu'il y aurait sûrement des momentum qui allaient s'alterner, qui allaient être tour à tour pour Liverpool et Manchester City. Et je trouve qu'en l'occurrence, Liverpool en a eu plus. Après, Manchester City a quand même fait un très très gros début de match. Et l'ouverture du score est selon moi très méritée. Par contre, en seconde période, on a vu que Manchester City pouvait être ballotté dans les grandes largeurs, pouvait perdre en maîtrise, avoir des gros gros temps faibles. Je trouve que s'ils perdent pas ce match, c'est beaucoup le fait de Liverpool plus que leur fait à eux. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit très souvent avec Manchester City, c'est que ils arrivent quand même à s'en sortir et à aller chercher un point à Anfield et surtout empêcher Liverpool de s'échapper un peu au classement, de prendre cet avantage de, ça aurait été de 4 points en l'occurrence, parce que Liverpool avait un point d'avance, ça aurait pu faire une différence, et Manchester City a quand même réussi à s'accrocher à ce point du nul à Anfield, c'est pas rien, parce qu'on l'avait dit, on avait sorti la stat aussi en preview, c'est Manchester City a beaucoup de mal à Anfield sur les dernières saisons, donc voilà, c'est un peu une des caractéristiques aussi des Citizens, cette capacité à aller chercher minimum un point, cette expérience aussi qu'il faut pour sortir de ces grosses rencontres, avec ce qu'on peut aller chercher, et on voit à quel point c'est serré entre Arsenal, Liverpool et Manchester City, mine de rien, c'est un point qui peut faire la différence. Maintenant, voilà, comme je le dis, on a vu que voilà, Manchester City n'était pas encore en pleine forme, en pleine possession de ses moyens et pouvait encore passer à côté de ses matchs contre des cadors. Je trouve qu'ils sont quand même largement passés à côté de leur seconde période. Donc pourquoi pas contre Arsenal aussi.
Toi, Thomas, est-ce que tu as pu voir ces matchs-là?
Oui, évidemment.
Et alors, est-ce que tu rejoins l'analyse de Karel?
Ouais, je rejoins l'analyse de Karel, parce que c'est vrai que on sent quand même des fébrilités défensives du côté de City, avec des erreurs d'incompréhension. Le but sur la passe en retrait, enfin le penalty avec la passe en retrait de Ake par exemple. Moi j'avais vu contre Chelsea également, il y avait des erreurs entre des mésententes entre Walker et Stones par exemple. Enfin, ils sont capables de se mettre des bâtons dans les roues tout seul, City, alors que c'était pas trop leur habitude. Et finalement, ils se rattrapent offensivement parce que ça reste des machines, parce que Foden au milieu fait de nombreuses différences, de coups également sur son côté, même s'il perd pas mal de ballons. Donc voilà, même si on voit de plus en plus ces fragilités-là, On sait que derrière, il compense avec, avec une attaque de feu. C'est ça qui intéresse, enfin, ça qui est un peu perturbant avec eux, parce qu'on a l'impression qu'il y a des failles, et puis finalement, se faire attraper parce que mentalement, ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là, je dirais presque. On a presque plus peur quand City est mené au score que quand City mène, quoi, parce qu'on sait très bien que derrière, j'ai pas envie de dire que ça les rebooste. Mais pas loin, quoi. Dès qu'ils prennent un but, dès qu'ils sont un peu déstabilisés, ils se remettent en mode Robocop, et puis c'est reparti. Donc là, en plus, il y a eu quelques loupés d'allant un peu grossiers. Donc on imagine que dans un meilleur jour, ils auraient pu être, décisifs plus rapidement.
On va passer à Arsenal, du coup. Donc, puisque vous avez très bien parlé de City, et puis si vous voulez entendre plus parler de City, on a eu quand même beaucoup de discussions là-dessus sur les épisodes précédents, dont justement la preview Liverpool contre City que je vous invite à écouter, qui est très qualitative. Le lapsus, mais non, honnêtement, en plus c'était un super épisode qui était vraiment très qualitatif, donc vous pourrez avoir plus de consistance si vous voulez sur ce City là cette saison là en plus, en complément de ce que Thomas et Karel ont dit. Côté d'Arsenal, on a eu donc une fin de série avant la trêve un petit peu compliquée, un match contre Brentford qui a été très accroché, une victoire 2-1 avec un but à la 86e minute de Kai Havertz qui arrache la victoire. On a senti une équipe qui était quand même un petit peu essoufflée par le rythme sur la fin. Contre Porto, ça a été très compliqué. L'équipe a été jusqu'au tir au but, donc a joué 120 minutes. On voit quand même, je trouve, Thomas, tu me diras si tu es d'accord, du très bon quand même, un peu du moins bon encore avec Arsenal. On sent que cette équipe-là, donc on disait que City n'avait pas encore atteint son plein potentiel. Moi, je trouve que Arsenal n'a pas encore réussi à aussi atteindre son vrai potentiel. Ça s'explique aussi par les blessures qui ont beaucoup handicapé le turnover que Arteta voulait peut-être mettre en place. Mais le match contre Brentford, ça montre quand même qu'il y a encore une marge de manœuvre pour que Arsenal devienne vraiment cette équipe qui soit une machine à enchaîner les victoires facilement.
Ouais. Je mettrais un petit... Alors Porto, ça a été un duel difficile.
Un duel difficile dont vous pourrez écouter tous les tenants et aboutissants sur le dernier épisode de Artilleur.
Merci. Ah ouais, la passe décisive là.
C'est un panneau publicitaire le podcast là.
Après, les gens se feront leur propre opinion. Non, mais oui, en effet, on en parle. Moi, contre Brentford, j'ai envie de dire. Et je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve qu'on a aussi observé ce que l'absence de David Raya dans notre jeu, dans sa qualité de couverture, dans sa qualité de relance, dans sa rapidité à repasser en transition offensive dès qu'il capte des centres ou des frappes. Le but qu'on prend contre Brentford, qui relance aussi Brentford, bon, malheureusement, c'est une boulette de Ramsdale. Voilà, ça s'ajoute aussi à ces éléments où je ne sais pas s'il faut faire de Brentford un match référence de ce point de vue-là. Enfin, je pense qu'on a manqué un peu de fraîcheur mentale. Et c'est ce qui parfois nous pèse dans cette période-là, parce qu'on l'a bien vu, hein, la reprise en janvier, on était une toute autre équipe que quand on a quitté l'année 2023 en décembre. En effet, il nous faudra un renouveau psychologique, et je pense que Gabriel Jesus, par exemple, qui revient de blessure, il a très envie de reprendre sa place, très envie d'impacter, puis de rejouer contre son ancienne équipe. Je pense qu'il va apporter des choses différentes. Je pense qu'un Thomas Partey aussi peut nous apporter, surtout si un Jorginho fatigue un peu. Moi, j'ai un peu peur de Jorginho face à un Foden dans l'axe quand même. Voilà, c'est ce qu'on disait aussi par rapport à la trêve internationale, les formes physiques, les formes mentales. Après, je pense qu'on sera en capacité de se dépasser pour ce match-là, parce que ce serait peut-être le contre-coup. Presque où j'aurais peut-être un peu plus peur, les matchs qui vont suivre, contre Luton par exemple, qui est un match un peu piège, ou Brighton, ou Aston Villa ensuite. Là, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on est marqué par ce match de l'année dernière qui fait jouer le titre, hein, concrètement. Moi, j'ai eu la chance d'y être l'année dernière à l'Etihad. Donc, j'ai beaucoup souffert ce jour-là et j'imagine pas dans la tête des joueurs. Donc, je pense qu'ils ont une grosse revanche à prendre et je pense que ça va prendre le pas sur l'énergie. Finalement, ils vont jouer avec leur trip et je pense que ça va prendre le pas.
Et bien, on va aborder un petit peu les clés tactiques de ce match-là. On sait que Guardiola aime beaucoup innover sur des grandes rencontres. Alors, c'est vrai qu'en Première Ligue contre Arsenal récemment, il n'a pas fait trop d'innovation. Il avait quand même été très fort, moi je me rappelle, la saison passée sur la façon de s'adapter à cette équipe d'Arsenal, surtout au match à l'Emirates, où Arsenal avait fait un énorme début de match, et puis après il avait remodifié sa configuration pour sortir le ballon et mettre à défaut le pressing d'Arsenal, qui avait bien marché, puisque City avait fini par gagner le match, malheureusement. Mais, enfin malheureusement non, je me perds, là c'est le supporter qui parle, c'est pas vraiment le chroniqueur, excusez-moi. Toi Kerel, est-ce que tu penses qu'on verra de la part de Guardiola un petit twist tactique de sa part pour mettre en difficulté Arteta? Ou est-ce que tu penses qu'il viendra sûr de ses forces, sûr de son équipe, et il essaiera de déployer le même jeu qu'il fait habituellement?
Bah déjà, il y a une grosse donnée, c'est que Manchester City va être à domicile déjà, parce qu'on parlait de leur timidité, un peu de fébrilité à l'extérieur à Anfield. Là, ça va être quand même un contexte un peu différent, et on sait que voilà, cette saison, ils ont pu avoir par le passé quelques difficultés quand même à l'Etihad, mais que globalement, ils abordent quand même pas les matchs de la même manière contre les grosses équipes lorsqu'ils sont à domicile, et c'est bien normal. Maintenant, Flo, ouais. Au pire, ça sera
il y a eu un petit bug, je suis désolé. Alors, chers auditeurs, il y a eu un petit bug de ce côté-là. Je n'ai pas les compétences pour faire le montage et le mixage de son, donc vous le garderez. Je suis désolé, c'est un cadeau. Voilà. Je reprends Kerel.
On verra. Mais oui, donc maintenant la question c'est de savoir, je trouve, comment il va s'articuler, notamment sur le plan offensif, parce qu'on a vu que récemment c'était peut-être un peu moins fluide que ce qu'on pouvait voir habituellement, avec peut-être plus l'habitude de s'appuyer sur des exploits un peu plus individuels. Là, j'ai en tête la performance de Foden à Old Trafford, mais le but qu'ils mettent aussi contre Liverpool, c'est pas un exploit individuel, mais c'est sur une phase arrêtée, sur un corner très bien tiré, avec la sortie de Stones au premier poteau, très bien tiré par Kevin De Bruyne. Donc c'est quand même des actions qui ne sont pas forcément des actions typiques de but de Manchester City comme on a l'habitude de les voir dominateurs dans le jeu. Maintenant, il y a un point que j'ai envie de voir, c'est l'utilisation de Julian Alvarez. On a vu que lorsqu'il rentrait parfois pour Jérémy Doku sur le côté gauche, et qu'il était capable d'amener ce surnombre dans l'axe également, parce que c'est aussi beaucoup plus un joueur d'axe, Julian Alvarez, à mon sens, Manchester City était à même de débloquer des situations. Donc voilà, est-ce que Julian Alvarez va être utilisé comme un deuxième attaquant pour décrocher, essayer d'amener un peu de surnombre dans le milieu de terrain, essayer de d'embêter ce milieu de terrain d'Arsenal? Est-ce que il va partir avec un vrai joueur de côté en la personne de Jérémy Doku pour essayer d'aller jouer les duels avec Ben White? Comment est-ce qu'il va utiliser Foden? Est-ce qu'il va essayer de l'utiliser pour repiquer dans l'axe comme il a l'habitude de le faire? Voilà, moi c'est un peu sur le plan offensif que toutes mes interrogations se trouvent à Manchester City.
Et côté Arsenal, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Thomas, comme peut-être surprise du chef? On sait que Martinelli, il est incertain. Est-ce que tu penses que Arteta composera avec ou pas?
Ouais, moi je franchement je m'attends à tout, je m'attends à un Saka, Martinelli et Gabriel out, qui vont rentrer en cours de match ou même faire une mi-temps, donc moi j'étais un petit peu parti sur le fait que Gabriel Jesus pouvait reprendre la place de Saka en démarrant le match, garder Trossard à gauche et Havertz en pointe. Pour moi, on va repartir sur notre milieu qui fait référence actuellement avec Odegaard, Rice et Jorginho. Ma crainte, c'est plutôt si Gabriel en défense est out. Là, ça m'embête un peu plus parce que là, je ne sais pas si on va décaler Kivior dans l'axe et passer Zinchenko arrière-gauche, ou si on va passer avec notre ami Tomiyasu dans l'axe et conserver Kivior à gauche, parce que j'ai un petit peu peur aussi d'un Zinchenko contre un Foden ou contre un Doku qui aurait pu permuter éventuellement, ou même un Alvarez, je veux dire, j'ai un petit peu plus peur, et je pense que Arteta prendra pas ce risque, sachant que je suis pas sûr qu'on domine autant les matchs qu'on a pu contre City à l'Etihad qu'on a pu en dominer ailleurs, donc je pense qu'il sera peut-être un peu plus vigilant et qu'il descendra peut-être Tomiyasu, défenseur central gauche, là où il peut jouer par moment avec la sélection du Japon. Mais voilà, offensivement, je pense qu'on va rester, on va rester là-dessus, avec en plus l'importance de Gabriel Jesus dans le pressing. On sait qu'il est hyper important là-dessus, et on sait que si en face on a plus de Walker, on a plus de Stones, ils auront peut-être moins de solutions à la relance, et donc peut-être un petit peu plus fragile si on les presse. Donc voilà, je vois bien ça si jamais on n'est pas en forme, et je dirais presque si Saka est là, pardon, je vais y arriver, peut-être que Gabriel Jesus pourrait démarrer ailier gauche à la place de Trossard.
D'autant plus, Flo, je me permets juste d'appuyer sur ce qu'a dit Thomas, c'est que sur le dernier match de Premier League de Manchester City, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire effectivement dans le pressing contre cette équipe, qui peut parfois se retrouver bien embêtée, qu'il avait été contre Liverpool, notamment au milieu de terrain, ou dans le milieu de terrain de Manchester City, quand Liverpool a commencé à reprendre un peu de poil de la bête après les 15-20 premières minutes compliquées. On a vu que lorsqu'il réussissait à resserrer l'étreinte sur le milieu de terrain de Manchester City, il y avait quand même des pertes de balles assez dommageables qui permettaient à Liverpool de se projeter rapidement en contre. Donc voilà, à voir maintenant si Arsenal a le cran, et je n'en doute pas de le faire à l'Etihad, mais ça peut être effectivement une clé, je pense.
Au niveau des facteurs X, du coup, Thomas, est-ce que tu en as un?
Alors moi j'ai un facteur X. J'ai une question que je me pose, c'est vraiment de savoir qui a envie de dominer ce match-là. Parce qu'on connaît la qualité de City en transition, on le connaît trop bien avec Haaland, avec Foden, avec De Bruyne, à eux trois ils sont capables de retourner une équipe. Et ma question c'est de me dire, est-ce que Guardiola nous laisserait pas dominer le match pour mieux nous prendre en contre? Et de ce point de vue là, pour moi la clé ça va être la couverture. La couverture dans le dos de la défense, ça va être Raya pour moi dans sa couverture derrière. Également dans sa transition offensive, parce qu'on sait que City prend pas mal de buts en transition. Dès que leur défense n'est pas organisée, c'est là qu'ils prennent le plus de buts. Dès qu'ils sont installés, c'est beaucoup plus compliqué. Même sur phase arrêtée, c'est pas évident. Donc je sais aussi que ces sorties de balles à Raya vont être décisives. Donc voilà, pour moi, ça va vraiment. Le facteur X, ça va être qui va vouloir dominer et qui va vouloir gérer ces phases de transition. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Tu as répondu à la question, c'est très bien. Et toi, Karel, est-ce que tu as un facteur X?
Bah, je pense que ça va beaucoup dépendre aussi de l'équipe qui est capable de faire le preuve de faire preuve de du plus de réalisme, parce qu'on a vu que contre Liverpool, Liverpool avait les armes pour remporter ce match, mais n'a pas su frapper assez fort pour remporter ce type de partie, et que Manchester City en ce moment était capable de laisser des occasions à ses adversaires. Donc voilà, Arsenal de son côté était capable aussi de mettre beaucoup de buts récemment, d'être assez bon sur le plan offensif au niveau de la concrétisation de ces occasions. Donc voilà, c'est un match sur lequel tu n'as pas le droit en fait de rater tes grosses occasions. Après, comme je l'ai dit, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que sur le plan offensif, j'ai quand même très envie de voir comment cette équipe de Manchester City s'articule, dans le sens où c'est vraiment un des points où je les ai trouvés défaillants récemment. Et si tu veux voilà, prétendre à ce titre, il faut quand même réussir à passer la vitesse supérieure dans ce sprint final, maintenant qu'il n'y a plus de trêve internationale vraiment qui va te séparer de la fin du championnat. Donc voilà, j'ai envie de voir si Manchester City va être capable, comme ils le font aussi souvent, si souvent lors des dernières saisons, de passer cette vitesse de champion pour aller chercher le titre sans vraiment contestation possible, ou si ça va être difficile jusqu'au bout pour eux, comme on a pu le voir contre Liverpool récemment.
Je rajouterais un truc, moi, si tu me si tu me le permets, Flo. Pour moi, il y a un truc à jouer vraiment sur le côté gauche de City. Pourquoi ? Parce que il y a un duel, White de coup. Donc défensivement pour White, mais j'ai envie de dire aussi offensivement, parce que Doku c'est quelqu'un qui perd pas mal de ballons, c'est quelqu'un qui n'est pas le plus intransigeant dans les replis défensifs. On sait que White il est très en forme, contre Brentford il met 2 passes décisives, il a pas joué avec l'Angleterre donc il s'est préparé tranquillement. Donc même si c'est Gabriel Jesus à la place de Saka, j'ai envie de dire à mon avis le côté droit d'Arsenal risque de faire mal, et je pense que Guardiola il sera vigilant en renforçant à mon avis le milieu de terrain avec un Kovacic, voire si Grealish est là, peut-être même aligner Grealish qui est un peu plus au taquet défensivement. Donc je pense qu'il va y avoir un vrai duel sur ce couloir là, et que si City n'est pas serein, je pense que ce côté là sera vraiment notre arme, notre facteur X.
On va passer au prono du coup. Karel, qu'est-ce que tu vois comme pronostic ? Et là, je m'adresse à Karel, le chroniqueur Première Ligue, pas le supporter de Liverpool qui voudra match nul.
Ah non, même pas. Moi, en vrai, là, je vais pas te mentir, je pense que comme vous deux, et puis comme tous ceux qui nous écouteront, j'ai surtout faim de football de club, parce que la trêve internationale nous a tous affamés. Donc j'espère un beau match, avant
et
tout.
Et puis, tu vas pour en profiter, parce que Liverpool rejoint un samedi à 12h30, du jamais vu.
Ce week-end, je crois qu'il joue Brighton dimanche 15h.
Mais ah, c'est pas samedi à 12h30, j'ai vu que Liverpool avait un match.
Ça sera pour contre West Ham. West Ham, autant pour moi. 27 avril, je crois, ou le 20 avril, je sais plus exactement. Effectivement, on va rejouer un samedi à 12h30, et ça c'est un grand plaisir, mais c'est un autre sujet. Non, j'espère un match quand même avec du spectacle. Alors là, c'est mes espérances. Par contre, pour le pronostic, effectivement, peut-être que tactiquement, ça sera plus fermé que ce que j'attends. Voilà, c'est un match avec énormément d'enjeux. J'ai envie de voir si Arsenal a passé ce palier d'un côté, et j'ai envie de te dire que. Ben en fait c'est pas ce que j'espère, mais je vois quand même un match nul. En fait c'est pas vraiment ce que j'espère, mais je vois quand même un match nul 1-1 sur un match un peu fermé, un peu à l'image de ce qu'on a vu à Anfield.
Et toi Thomas?
Bah moi je suis désolé hein, c'est le supporter qui va parler.
Moi je
vais dire 2-0 pour Arsenal, parce que je pense qu'on sera solide défensivement, je pense pas qu'on laissera passer quelque chose, et si on arrive à être, comment dire, si on est clinique devant, on aura quelques occasions. Franchement, je pense qu'on peut prendre 2-0, ouais. Qu'on peut mettre 2-0 plutôt dans ce sens là
alors habituellement quand il y a deux pronostics différents, je fais le troisième, comme ça il y aura toujours un bon pronostic qui est donné dans cette émission. Là, je m'en fous complet. Je vais aller aussi. Je vais pas donner une victoire de City. Je vais donner une victoire d'Arsenal aussi. Une victoire 2-1. Mais ce sera un match très serré. En fait, j'hésite beaucoup entre le match nul et la victoire d'Arsenal. Ce sera, comme le dit Karel, je pense, un match très fermé tactiquement, qui va être une grosse bataille. Et ça se jouera sur des détails. Donc, l'équipe qui aura le plus de détails dans sa balance gagnera ce match, à mon sens. En tout cas, merci à vous. Thomas, donc, on te retrouve avec Artilleur, le podcast Sport Constant sur Arsenal. Du coup, avec un épisode qui sort tous les lundis dans la matinée. Donc, à écouter, en ce moment, on parle des 8e de finale de Ligue des Champions contre Porto. Et lundi prochain, on parlera de la preview du quart de finale face au Bayern Munich. Toi, Karel, on te retrouve avec l'excellent Ma Ligue 2, où tu parles un petit peu de tout le championnat de Ligue 2. Je vous invite encore une fois vraiment à écouter, même si vous ne suivez pas la Ligue 2, au moins l'épisode qu'il a fait avec Régis Brouard, un entraîneur franchement expérimenté, qui donne une vision super intéressante du football et qui est amené par des questions de maître de la part de Karel. C'est un épisode de qualité, et puis je vous pousse à écouter. On te retrouve aussi de toute façon dans tous les cas sur temps additionnel, sur plusieurs podcasts, le décrassage ou autre. Donc merci à vous pour votre temps, les gars. On espère qu'on va passer en tout cas un super week-end de football, qu'on va se régaler à retrouver nos clubs, qu'on va pas trop pleurer s'il y a des mauvais résultats, mais ça, on sait jamais. En tout cas, nous, chers auditeurs, on vous souhaite un très bon week-end de football. C'était traditionnel. Et attendez, oulala, avant de lâcher je vous ai fait une feinte. N'hésitez pas à mettre votre première 5 étoiles pour nous soutenir sur les médias. Et puis aussi, si vous avez encore faim de football de club, il y a aussi des previews sur la Serie A, sur la Liga, sur la Bundesliga qui sont sortis aussi. Donc ma fin d'émission est catastrophique, mais c'est pas grave. On vous invite à écouter ça. Merci à tous. Salut.